France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le porte-parole du gouvernement. Question, vous êtes déjà très nombreux au standard. Dans une dizaine de minutes, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour.
Alors reprenons, malgré l'abandon de la fameuse taxe carbone, malgré l'ensemble des mesures d'urgence économique annoncées par le président et par certaines entreprises, malgré la perspective d'un grand débat, malgré le travail des forces de l'ordre, les manifestations de gilets jaunes samedi ont encore donné lieu à des débordements violents. Première question, Benjamin Griveaux, pourquoi l'ordre républicain n'est-il toujours pas rétabli dans les rues de certaines grandes villes de France ?
D'abord parce qu'on vit en démocratie et que à Paris, la manifestation de samedi était déclarée, donc pouvait se tenir, parce que dans une démocratie, on entend beaucoup que le régime ne serait pas démocratique, que nous verrions dans une dictature, dans un régime totalitaire. Eh bien non. On peut librement manifester, et il y a des manifestations qui se sont tenues, d'ailleurs depuis plusieurs semaines.
Parfaitement bien.
Parfaitement bien. Et puis il y a, et donc moi je ne mélange pas, et j'entends souvent qu'on amalgamerait les gilets jaunes sincères, qui n'arrivent pas à joindre les extrémités le 15 du mois, qui sont dans le rouge à la banque, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui s'en sortent pas, et ceux, minoritaires, mais réels, qui s'en prennent à des bâtiments publics. Ce week-end, ce fut le cas dans mon ministère, mais je vais vous dire, c'est arrivé à la mairie de Rennes, c'est arrivé dans des tribunaux, c'est arrivé dans des gendarmeries, dans des préfectures. On s'en prend à des bâtiments publics. À la République.
Qui a attaqué votre ministère ? Est-ce que c'était des gilets jaunes ou des casseurs ?
Les images démontrent qu'il y avait des gens qui portaient des gilets jaunes et des gens qui n'en portaient pas. Les deux se mélangent. Et donc, vous avez, et moi je fais bien la distinction, ceux qui ont dû, je vais vous dire, pour mettre un gilet jaune, aller sur un rond-point, dans des petites villes où tout le monde vous connaît, il faut beaucoup de courage. Parce que vous êtes en train de dire à vos voisins, à vos amis, à vos parents, à vos enfants, que vous n'y arrivez plus, que vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts. En revanche, il y a beaucoup de lâcheté de la part de ceux qui s'attaquent à des bâtiments publics, qui boxent des policiers sur le pont des Arts, qui s'attaquent à des parlementaires, qui envoient des lettres racistes, évidemment sous couvert d'anonymat, où l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie, remontent à la surface. Ceux-là n'ont pas leur place dans la République et il faut être extrêmement ferme. Mais on est dans un pays de liberté et on y est très attaché. Et c'est donc cet équilibre subtil entre d'un côté l'ordre public, républicain, que vous mentionniez dans votre question, et les libertés publiques.
Mais la fraction radicalisée est ingérable.
Écoutez, on propose un grand débat, ils n'y viennent même pas. Ils refusent d'y participer. Monsieur Drouet, Monsieur Nicole, Mme Ludowski disent non, mais le débat, ça ne nous intéresse pas. Bon, moi je dis aux Français, et pas qu'à ceux qui portent un gilet jaune, rejoignez le débat. On a besoin, le président de la République a décrété l'état d'urgence économique, j'en appelle un état d'urgence démocratique. Il faut se réveiller. Et les belles consciences, de gauche comme de droite, qui ce week-end ont été parfois très silencieuses, dans un silence assourdissant, doivent se réveiller.
On va parler du débat, on va parler de ce que vous proposez, de ce débat que vous lancez à partir du 15 janvier, mais d'abord, deux, trois questions encore sur ce qui s'est passé samedi. Plusieurs syndicats de police demandent d'aller plus loin et d'établir une liste administrative des casseurs. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Il y a des mesures qui peuvent être prises et qui sont en train d'être travaillées. Moi, vous savez, je suis favorable à tout ce qui peut permettre de rétablir l'ordre républicain, de prévenir les violences auxquelles on a assisté, qui frappent nos forces de l'ordre, qui frappe aussi des manifestants sincères qui se retrouvent pris dans des phénomènes de violence. Et donc moi, je ne m'y résous pas. Tout ce qui peut être entrepris et qui permettrait d'avoir moins de violence,
pourquoi pas un fichier administratif des caisseurs,
doit être examiné avec la plus grande attention.
On voit des images de vidéosurveillance qui tournent sur les chaînes d'infos depuis hier sur ce qui s'est passé dans votre ministère. Est-ce à dire que vous les avez communiquées ? Si oui,
non.
Pourquoi ?
Ce n'est pas moi qui les ai communiqués, mais vous savez, il y a une enquête qui est en cours, puisque le parquet de Paris a été saisi, et donc c'est peut-être dans le cadre de cette enquête que les images ont été saisies.
Un commandant de police a frappé violemment plusieurs manifestants à Toulon, Benjamin Griveaux. Que pouvez-vous nous dire de plus ? Ce matin, doit-il être relevé de ses fonctions ? Ou pensez-vous, comme le procureur de la République de Toulon, que cette violence était proportionnée ?
Non, d'abord, moi je n'ai pas commenté la décision d'un procureur de la République par définition, mais ce que je peux dire aussi, c'est que le préfet du Var a saisi l'inspection générale de la police nationale. Il y a donc une enquête administrative qui a été ouverte dès hier soir par le préfet du Var. Je le dis, la violence, quelle qu'elle soit, doit être bannie du champ républicain. Ça n'a pas sa place.
Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de parler de foule haineuse, comme l'a dit Emmanuel Macron, de factieux, d'agitateur, ça contribue à jeter de l'huile sur le feu ?
Non, ça permet de nommer les choses. Et dans le silence assourdissant de la période, il faut nommer les choses. Ceux qui défoncent la porte de mon ministère, qui s'attaquent à une mairie, qui insultent des députés, ceux-là sont des factieux. Ils n'aiment pas la République. Ils n'aiment pas la forme démocratique de notre gouvernement. Vous savez, moi, j'adore notre pays parce que c'est un pays où on peut, je vais le dire un peu trivialement, s'engueuler politiquement. C'est sain. C'est heureux. Il y a des pays où on n'a pas cette liberté-là. Mais la limite de ces engueulades, de ce débat démocratique, c'est la question du respect de nos institutions et de la forme démocratique du gouvernement. Et donc, vous avez, et je le redis, ils sont minoritaires, et ce sont les lâches, ceux qui insultent, ceux qui attaquent, ceux qui vandalisent, ceux qui pillent, ceux qui brûlent, ceux qui volent, n'ont pas la place dans le champ républicain. Ils doivent être identifiés, poursuivis, et lourdement condamné.
Puisque vous dites qu'il s'agit de nommer les choses, Jean-Luc Mélenchon a tweeté ce week-end « Bataille au corps à corps sur les ponts de Paris, est-ce un pouvoir républicain celui qui donne de tels ordres ?»
Mais je vais vous dire, aucun patron d'aucun parti d'opposition n'a eu de réaction suite à l'intrusion dans mon ministère, suite aux violences sur la mairie de Rennes, sur les préfectures dont j'ai évoqué ce qui s'était passé tout à l'heure. C'est une capitulation morale et intellectuelle d'une grande partie des opposants politiques. C'est une capitulation. Je vous le dis, ils ont l'esprit munichois. Ils sont en train d'essayer de récupérer politiquement et d'instrumentaliser politiquement la colère des gens. Et ceux-là, moi je le crois, ont quitté le champ républicain.
L'esprit munichois pour tous les patrons.
Jean-Luc Mélenchon, entre les deux tours de l'élection présidentielle, je le rappelle, n'a pas été capable de prononcer le nom d'Emmanuel Macron et d'appeler à un vote clair en sa faveur contre le Front National, contre Marine Le Pen, contre ce contre quoi la gauche dont il se revendique s'est toujours battue.
Jean-Luc Mélenchon a quitté l'espace républicain.
Il y a une capitulation morale et intellectuelle. Pardon. Je vous le dis, de la part de Jean-Luc Mélenchon, oui, et je vous l'affirme ce matin à votre micro.
Il a quitté l'espace républicain.
Quand on est incapable d'avoir la moindre réaction, lorsque des bâtiments publics, lorsque des parlementaires, lorsque des institutions sont mises en cause par des factieux et des violents, oui, on a quitté le champ républicain.
Un mot avant d'évoquer le grand débat qui va donc démarrer le 15 janvier sur les propos de Laurent Berger hier dans Questions politiques sur France Inter. Il était au micro d'Ali Badou. Sur la crise des Gilets jaunes, le président de la République, c'était la question, est-il en contact avec la CFDT ces dernières semaines? Écoutez sa réponse.
Non, bien sûr que non. J'ai eu aucun contact avec le président de la République depuis la réunion qui s'est opérée, je crois, le 10 décembre, voilà. Avec le gouvernement, il y a eu des contacts avec des ministres sur tel ou tel sujet, mais il n'y a pas eu de contact sur la période là récente, depuis le 10 décembre.
On ne vous appelle pas pour que vous reveniez dans le jeu?
Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce gouvernement, s'il considère face à ce qui vient de se passer encore hier, qu'il aura la réponse tout seul, il se met le doigt dans l'œil.
Je vais la poser de manière familière, c'est quand même délirant, non, ce que dit Laurent Berger, l'absence totale de contact avec le président de la République, quelques contacts avec l'exécutif dans une situation de crise pareille.
Alors d'abord, moi je veux saluer Laurent Berger, puisque hier, il a, à votre micro, dit autre chose, il a dit que... Il a dit qu'on avait en face de nous des gens qui veulent renverser notre démocratie, et il a appelé à la responsabilité des responsables à la fois politiques et syndicaux, et je veux saluer ce message. Ce que dit Laurent Berger hier, c'est qu'il a eu des contacts avec des ministres, avec l'exécutif, le président de la République, pardonnez-moi, si on a une bonne lecture de nos institutions et de la Constitution, c'est le gouvernement qui gouverne, le président préside. Le président a reçu l'ensemble des corps intermédiaires le 10 décembre, Laurent Berger y était présent, il a d'ailleurs fait une intervention qui fut remarquée. On a présenté dans ce cadre-là une réponse à une question économique et sociale. Ce ne sont pas les partenaires sociaux qui apportent des réponses au sujet typique de la journée de samedi sur les violences et sur l'ordre public.
Mais Laurent Berger semble s'en étonner dans sa réponse, clairement.
Mais écoutez, on est au début du mois de janvier, il y a des réponses qui ont été apportées, il y a un grand débat auquel nous avons invité toutes les organisations syndicales à participer. Et moi, je souhaite qu'ils puissent y participer et y apporter leur expertise et leur savoir-faire. Et il y a un travail avec les ministres, avec le gouvernement, sur les sujets sur lesquels les organisations syndicales, et en premier rang desquelles la CFDT, sont évidemment associées.
Alors le grand débat, Benjamin Griveaux, est-ce que vous pouvez expliquer à un auditeur qui souhaiterait y participer comment ça va se passer? On va où? On fait quoi? Avec quelle garantie d'être écouté?
Les modalités seront présentes. Vous le savez, mi-janvier, puisque nous avons un séminaire gouvernemental à l'issue du Conseil des ministres qui se tient mercredi. Et donc, nous aurons ces modalités qui seront présentées. Nous avons déjà des retours depuis 3 ou 4 semaines parce que, et je le dis, l'Association des maires ruraux de France fait un travail remarquable. Il y a des dizaines de mairies qui ont ouvert leurs portes dans des zones rurales notamment depuis déjà de nombreuses semaines. Et on a des remontées de ce qui, au fond, intéresse les Français, de ce dont ils souhaitent parler. Ce qui nous permet de faire un pré-cadrage. Parce qu'évidemment, si le grand débat, c'est le grand déballage, ou si le grand débat, c'est on va rejouer l'élection d'il y a 18 mois, bon, bah, ça n'a pas grand
donc,
intérêt.
Donc tout n'est pas sur la table du grand débat.
Non, mais il y a quelque chose dans une démocratie représentative qui s'appelle l'élection, en fait. Et un quinquennat, ça dure, comme son nom l'indique, 5 ans. Ça veut dire que
ça sert à quoi de le faire, du coup, le grand débat?
Mais ça veut dire qu'il y a 4 thèmes qui ont été identifiés, qu'il y a des sujets, notamment sur les questions de participation, sur la question d'organisation de l'État, sur la question du rapport entre la fiscalité et nos dépenses publiques, et sur l'accompagnement de la transition écologique, qui sont sur la table. Mais si certains y vont, pensant pouvoir remettre en cause le mariage pour tous, l'IVG, la peine de mort, etc., je le dis, ça n'est pas souhaitable et ça ne doit pas et ça ne sera pas le cas.
Et si certains y vont en se disant qu'il faudrait rétablir l'ISF, qui n'est pas une revendication de même nature que la peine de mort, l'IVG ou le mariage pour tous.
Mais vous savez, avant de jeter aux orties des mesures, peut-être pourrait-on pour une fois dans notre pays éviter de défaire en moins de 18 mois ce qui a été fait les 18 mois précédents, de voir si la mesure porte ses fruits. Je rappelle que la fin de l'ISF a été votée il y a, encore la modification, puisque je rappelle qu'il y a un impôt sur la fortune immobilière, a été votée il y a un an. C'était en décembre 2017. Donc, peut-être, comme dans n'importe quelle démocratie à peu près mature...
Oui, mais le calendrier a été bousculé, là, vous le savez.
Peut-être peut-on prendre le temps de regarder si la mesure fonctionne et de voir ensuite s'il faut l'améliorer ou pas. Juste cela. On ne peut pas avoir en permanence du zigzag, du slalom et revenir. Et c'est l'un des risques. C'est l'un des risques d'avoir à défaire en permanence le mois qui vient ce que vous avez fait le mois précédent.
Alors justement, est-ce que vous l'appliquez à la taxe d'habitation? Puisque manifestement, sur la taxe d'habitation, il y aurait un changement. Bruno Le Maire dit que finalement, l'idée, la grande promesse de campagne qui était de supprimer totalement la taxe d'habitation est remise en cause.
La promesse de campagne était de la supprimer pour 80% des Français, vous le savez. Pour 80% des Français qui sont dans les 8 premières tranches, donc les 8 premiers déciles concernant la taxe d'habitation. Cette mesure-là, elle a été votée, elle a été mise en place puisque d'abord 80% des Français ont vu leur taxe d'habitation baisser de 30% au mois d'octobre dernier, elle rebaissera de 30% au mois d'octobre prochain et elle sera à zéro pour 80% de nos concitoyens. Se pose la question des 20 derniers pourcents. Les 20 derniers pourcents qui a été soulevé notamment par le Conseil constitutionnel, disant qu'il y avait peut-être un sujet de constitutionnalité.
Les 20% les plus aisés.
Et quand on dit les 20% les plus aisés, à nouveau, il n'y a pas que des gens qui sont riches, sortons un peu aussi des représentations de ces fameux 20%. Mais ça n'était pas dans le projet initial. La question de savoir si nous irons sur ces 20% restants, elle est sur la table, elle doit pouvoir être interrogée.
Ça pose pas une question de rupture de l'égalité devant l'impôt?
Oui, mais vous savez, on peut pas en permanence nous expliquer que il faut plus mettre à contribution ceux qui ont plus, et quand c'est fait, invoquer l'égalité devant l'impôt.
Non, mais
c'est une question de droit qui a été soulevée par le Conseil constitutionnel et donc qui sera tranchée dans le cadre d'un débat au Parlement.
Le président de la République, on a pu le lire ici ou là, semble favorable à l'organisation d'un référendum à l'issue du grand débat, peut-être en même temps que les élections présidentielles. Est-ce que l'hypothèse est sur la table et vous, est-ce que vous y seriez favorable?
Alors écoutez, moi je ne sais pas dire, avant même qu'un débat ait commencé, quelle est l'issue de ce débat. Et par ailleurs, le référendum, j'entends le débat que nous avons en ce moment sur la question du référendum. Le référendum, c'est pas une fin en soi, c'est un outil le référendum. C'est pour faire quoi? Quelle est la question posée? Quel est le sujet traité? Ceux qui nous expliquent à longueur de journée ou de micro qu'il faut absolument mettre un référendum, c'est un outil. C'est un outil, le référendum. Et moi, je le dis, il y a des réponses concrètes aux problèmes concrets de nos concitoyens qui seront apportées par des politiques publiques plus efficaces, par une réglementation moins contraignante, par des lois mieux appliquées, avant même de mettre sur la table la question du référendum. Donc, avant de savoir quelle est l'issue d'un débat, organisons ce débat. J'invite vraiment tous les Français à y participer, pas ceux seulement qui ont un gilet jaune et qui ont exprimé leur colère, souvent légitime, mais vraiment tous les Français à y participer. Mmh. C'est un beau débat, c'est une première sur la Ve République, ça va dépoussiérer nos institutions qui en ont bien besoin.
Ah, il y a eu un débat aussi sur l'identité nationale il y a quelques années.
Qui a été avorté et dont vous savez très bien quelle était la nature. Là, c'est un débat beaucoup plus large sur la question de l'assentiment à l'impôt, sur l'organisation de l'État, sur la citoyenneté, la démocratie, sur la question de l'accompagnement de la transition écologique. Je crois que c'est un beau débat, il faut pouvoir s'en emparer.
Le Standard, la parole aux auditeurs d'un. Bonjour François.
Bonjour Léa, bonjour Nicolas, bonjour Monsieur Griveau. Alors bonjour. D'abord je voudrais vous remettre le point Godwin du jour pour votre intervention sur l'esprit minicois. Vous qui, tel Monsieur Jourdain, citez Maurras sans le savoir. Maintenant ma question sur le grand débat. Le grand débat, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être irresponsable dans la situation qui est historique actuellement, de proposer un grand débat pour sortir de la crise actuelle et d'avoir un président de la République qui, le 31, est extrêmement méprisant et dit « circuler, il n'y a rien à voir, je parle à mon électorat, on reste sur notre base, vous aujourd'hui, mais en décembre c'était la même chose, qui disait « on a été élu sur un programme, donc un grand débat en gros c'est « cause toujours qui m'intéresse ». Et avec Ali Badou sur France Inter, Bruno Le Maire qui expliquait que on rentre dans le dur. Donc en gros, c'est même plus on reste sur notre projet, c'est on accélère et on va plus loin.
Mmh. Merci François pour cette question, très nombreuses questions sur l'application France Inter également sur ce même thème. Benjamin Griveau vous répond.
Bonjour François, bonne année d'abord. Je vais vous dire le point Godwin que vous évoquez. À force de ne pas vouloir voir en face l'antisémitisme crasse qui est en train de se développer sur certaines antennes, dans certains papiers, sur les réseaux sociaux. Moi, vous savez, on a attaqué la famille de ma femme et notamment le grand-père de ma femme. C'est Hervé Ryssen qui a fait ça ce week-end avec une immense violence. Ma femme, elle fait pas de politique. Elle a un métier d'avocate. Elle fait ça de la meilleure des manières. Et elle a été mise en cause et sa famille a été mise en cause. Donc, moi, j'aurais aucun état d'âme. Et croyez-moi,
antisémitisme, c'est ça ce que vous dites ?
Antisémitisme, bien sûr, oui, bien sûr.
Son grand-père, elle a été l'objet
d'insultes de la part de Monsieur Ryssen. Je vous invite à aller voir son compte Twitter. Ne lui faites pas de promotion. Enfin, il faut les combattre pied à pied. Donc moi, j'assume totalement le fait de dire que oui, il y a un antisémitisme qui est en train de remonter dans le pays et que ceux qui ne veulent pas le voir s'en rendent complices. Par ailleurs, sur le grand débat, il y a un état d'urgence démocratique. Et ça, on ne peut pas, d'un côté, considérer que le gouvernement n'est pas assez à l'écoute, qu'il y aurait un pouvoir dont le qualificatif a longtemps été accolé de jupitérien, que tout se décide depuis Paris et ne se fait pas dans les territoires, et ne pas considérer que ce que nous avons mis en place, qui, à nouveau, est historique, ça n'a jamais été testé, ça n'a jamais été tenté. La question des conférences de consensus, de comment on arrive à dégager du débat citoyen, comment on remet le citoyen au cœur du débat politique, alors qu'il en est le décor depuis de trop nombreuses années.
Oui, mais tous les auditeurs disent, dès lors qu'il y a des sujets interdits sur lesquels il sera interdit de se prononcer, ou qui, en tout état de cause, ne changeront rien, à quoi ça sert un débat de cette nature ?
Vous avez beaucoup de sujets qui ne sont pas interdits.
Philippe, Myriam, et sur lesquels... Jacob Neuf, c'est les
très
questions
bien.
D'auditeurs.
Mais vous avez aussi beaucoup de sujets qui sont sur la table. Et je le redis aux auditeurs, il y avait des élections. C'était il y a 20 mois. On est dans une démocratie représentative. On n'est pas dans une démocratie directe. Pardon de le dire. J'y suis très attaché. C'est aussi la stabilité de nos institutions. C'est aussi ce qui fait qu'en France, quand vous avez des manifestations avec la violence qui s'est exprimée hier, vous n'avez pas de mort à l'issue de telles manifestations. C'est ça aussi notre pays. Et moi, j'y suis viscéralement attaché.
Fabien est en ligne. Fabien qui nous appelle de Nantes ou de Brest ?
Oui, un peu des deux.
Bonjour, ah bon, d'accord.
Meilleurs vœux. Et Monsieur Griveau, ne pensez-vous pas que le timing est particulièrement mal choisi pour mettre en œuvre cette réforme d'assurance chômage dont vous promettez qu'elle va renforcer les contrôles à l'égard des chômeurs, nouvelle stigmatisation pour cette population précaire dont il faut rappeler que des millions de personnes peine à trouver un travail, ne vous en déplaise, ils vont pas tous se reconvertir dans les secteurs pourvoyeurs d'emploi. Donc une nouvelle fois, comme je l'ai déjà fait sur l'antenne de France Inter, ne pensez-vous pas qu'il ne faut pas stigmatiser ces chômeurs, mais au contraire les aider? Or, la réforme de l'assurance chômage dont vous voulez qu'elle procure 1 à 1,3 milliard d'euros d'économies par an va être un massacre des chômeurs.
Merci Fabien pour cette question. Benjamin Griveau vous répond.
Bonjour Fabien, bonne année à nouveau. Entre Nantes et Brest, si j'ai bien compris.
Oui, voilà.
Le décret qui a été pris, on a beaucoup parlé de ce décret sur l'assurance chômage qui a été pris le 1er janvier. Mais ce qui est quand même stupéfiant, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un décret, les gens considèrent que c'est plus dur. Est-ce que on peut s'arrêter juste une seconde sur ce fameux décret ? Avant, la situation était simple. Quand vous ratiez un entretien, vous ne vous rendiez pas un entretien à Pôle emploi, vous aviez 2 mois de suspension. Après ce décret, c'est 1 mois. Donc est-ce qu'on a durci ou est-ce qu'on a allégé ? On a allégé. En revanche, quand vous refusez une offre d'embauche, c'était là où la sanction était moins forte quand vous refusiez une offre que quand vous ne vous rendiez pas un entretien. On a remis dans le bon ordre, la bonne logique. On n'est pas en train de dire que demain matin, tout le monde peut retrouver un job très facilement. Enfin, on sait que ce pays fait face à un chômage de masse, qu'on est le seul pays dans les grandes démocraties européennes. Je mets de côté la question de l'Espagne et du Portugal. Mais là, je pense pas qu'on puisse les prendre comme modèle, parce que ça veut dire baisse des salaires des fonctionnaires, baisse des retraites. Je crois pas que ce soit, en tout cas, ce que Fabien défendrait. Toutes les autres grandes démocraties occidentales ont réglé le problème du chômage de masse. Toutes. Nous sommes les seuls à avoir un taux de chômage à 9% quand tous les autres pays autour de nous sont entre 4 et 6%. Donc il y a quand même un sujet. Et dire on continue comme avant, comme si de rien n'était, la réponse est non. Est-ce que on veut être plus dur et sanctionner plus durement ceux qui sont dans la galère? Non. On a dit, et on l'a dit aux partenaires sociaux, et d'ailleurs les partenaires sociaux sont en train d'y travailler, ils vont avoir des premières conclusions dès la semaine qui vient. Donc il y a, vous voyez, ce travail de concertation, de discussion, ça n'est pas que le gouvernement, les partenaires sociaux y travaillent depuis des mois sur la question de comment est-ce qu'on incite plus efficacement les gens à retrouver un emploi. Comment est-ce qu'on arrive à remettre de l'énergie au bon endroit dans le système pour en finir enfin avec le chômage de masse. Considérer qu'il faut faire comme on a fait depuis toujours, alors qu'on a 9% de chômage, que moi j'ai grandi avec le chômage de masse depuis ma plus tendre enfance, eh bien je crois que c'est renoncer, et nous on a renoncer à renoncer sur cette question du chômage.
Benjamin Griveaux, êtes-vous favorable, comme le défendent certains députés de La République En Marche, à un taux réduit de TVA sur les produits de première nécessité?
D'abord, il y a déjà des taux réduits qui existent sur différents types de produits, mais je vais vous dire, moi, mon obsession, c'est de faire en sorte que le travail paye mieux, que quand on se lève le matin, qu'on va bosser, eh bien, on puisse être mieux rémunéré. C'est pour ça qu'on a avancé la mesure sur, par exemple, les heures supplémentaires. C'est pour ça qu'on est fier d'avoir fait baisser les niveaux de cotisation pour pouvoir permettre que le salaire net augmente. C'est
notre obsession
depuis le premier jour.
Sur ma question.
Il faut que le travail paye mieux.
Mais sur ma question, sur la TV.
Oui, mais je vais vous dire, vous avez votre question. À nouveau, c'est la question de l'outil. Moi, la philosophie qui est derrière. La philosophie, c'est, moi, je veux bien qu'on fasse baisser les impôts, ça veut dire qu'on a moins de recettes fiscales. Et c'est l'objectif d'arriver à faire baisser la pression fiscale dans notre pays. Mais ça veut dire aussi qu'en face, on a des politiques publiques qui seront plus ou moins faites. On peut pas, dans les mêmes phrases,
d'accord,
considérer
donc
qu'il faut plus de dépenses publiques et de l'autre, dire qu'il faut moins d'impôts en permanence. Il faut avoir aussi un discours très responsable.
Allez, retour au standard. Christian est à Montpellier et au micro d'Inter. Soyez le bienvenu.
Oui, bonjour. Donc, j'ai une question à poser à monsieur Benjamin Griveaux. Est-ce qu'il sait ce que veulent les gilets jaunes? Parce que si j'en crois les inscriptions que je vois sur les murs de ma ville, il semblerait que ces gens-là désirent le rétablissement de la peine de mort, la suppression de l'IVG, la sortie de l'Europe et la mise à la porte de tous les migrants. Ce qui veut dire, et je crois ne pas me tromper, j'aimerais savoir ce qu'en pense M. Griveaux, ce qui veut dire que c'est...
Ah, on vous a perdu. Merci en tout cas pour la première partie de votre intervention, Christian. Avec une vraie question, pouvez-vous nous dire ce que veulent exactement les gilets jaunes? Que répondez-vous à Christian, Benjamin Griveaux?
Je vais vous dire, c'est l'intérêt de... D'abord, merci Christian d'avoir posé votre question. C'est l'intérêt aussi du grand débat.
Mais
c'est
à ce
que
stade,
la
savez
démocratie...
Vous savez, qu'est-ce que vous diriez? Que veulent-ils exactement?
Je suis incapable de vous dire. Je vais vous dire.
À ce stade.
Prenez un tract qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il est en forme de gilet jaune. Il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de propositions. Vous savez quelle est la première d'entre elles? Aucun Français doit payer plus de 25% d'impôts. Je vais vous dire. C'est le plus beau cadeau fait aux riches. C'est un immense cadeau fait aux riches que cette proposition faite par les gilets jaunes. Eh bien, je suis certain qu'il y a des gilets jaunes qui considèrent qu'il y a trop d'impôts, puis d'autres qui considèrent qu'il n'y en a pas assez. Bon. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ce grand débat va permettre de poser les choses sur la table, de vivre la démocratie à visage découvert, pas caché derrière un compte sur des réseaux sociaux avec des pseudos anonymes. La démocratie, elle se vit à visage découvert. On va peut-être voir qu'il y a des points d'accord sur certains sujets, et puis des points de désaccord très profonds sur d'autres. Je l'espère, parce que quand j'entends les éléments qu'évoquait Christian inscrits sur les murs de la ville de Montpellier, eh bien, je me dis que les gens que j'ai rencontrés, les gilets jaunes que j'ai rencontrés, ceux-là ne partagent pas ces revendications sur la question migratoire,
en
sur la
mot.
Question de la peine de mort ou d'autres. Et donc, je le dis à ceux qui sont sincères et qui veulent vraiment construire quelque chose, rendez-vous dans les débats.
Comment vous expliquez que malgré les violences, malgré tout ce qui se passe, malgré ces demandes qui sont parfois contradictoires, les gilets jaunes restent soutenus par l'opinion? Le soutien est en baisse, mais il y a toujours, selon le dernier sondage, 55% des Français qui soutiennent les gilets jaunes.
Mais vous savez, au premier tour de l'élection présidentielle, près de 50% des Français ont porté leur suffrage sur qui? Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, M. Asselineau et d'autres, M. Dupont-Aignan. Donc au fond, c'est 50% de Français qui étaient en colère au moment de l'élection présidentielle et qui ont fait ce vote-là. Aujourd'hui, on les retrouve aussi en grande partie dans ce mouvement de contestation. Mais ce que je dis aussi, c'est que peut-être ne sommes-nous pas allés assez vite. Vous savez, on a été élus sur une demande de transformation radicale et rapide. Et sans doute que pour ceux qui ont enfilé un gilet jaune, pour une partie d'entre eux, ils ont considéré que les changements dans leur vie au quotidien n'étaient pas intervenus assez rapidement. C'est contre ça qu'il faut lutter et c'est cela qu'il va falloir mettre en place dans les semaines et les mois qui viennent.
Merci Benjamin Griveaux. Encore bonne année.
Merci
2019.
Vous.
On vous souhaite quoi ?
La santé et c'est l'essentiel.
Allez, il est 8h46. Merci encore. Le Carrefour du 7-9 est à suivre.